RFI, grand reportage. Céline Pellarin.
C'est la pire vague de répression contre les homosexuels, bisexuels, transgenres ou intersexes, les LGBTI, que l'Égypte ait jamais connue. Entre le 22 septembre et le 31 octobre, au moins 66 homosexuels ont été arrêtés, mis en détention et accusés de débauche ou d'incitation à la débauche, l'homosexualité n'étant pas officiellement criminalisée en Égypte. Selon l'ONG égyptienne EIPR, 27 personnes ont déjà été condamnées à des peines allant de 6 mois à 6 ans de prison et plus de 280 homosexuels ont été condamnés depuis 2013. Cette intensification de la chasse aux homosexuels en Égypte a débuté après un concert de rock, celui du célèbre groupe libanais Mashrou Leila. Quelques jeunes brandissent alors un drapeau arc-en-ciel, symbole de la lutte pour la défense des droits LGBTI. Quelques heures plus tard seulement, les médias, les responsables religieux, les autorités s'offusquent et la police consulte ses listings pour procéder à des arrestations arbitraires. En effet, la plupart des accusés n'étaient pas au concert. Stratégie politique de la diversion, panique morale et religieuse, volonté de contrôler le corps et la sexualité des citoyens égyptiens. C'est peut-être tout cela à la fois qui explique la violente répression contre les LGBTI et la tentative de briser les désirs de liberté sexuelle. Tout ça pour quelques couleurs, la communauté LGBTI proie facile du régime égyptien. C'est un grand reportage de François Humfer Kataji.
Le 3 octobre 2017 à 21h48, le groupe libanais de rock alternatif Mashrou Leila publie un message sur son compte Facebook à l'adresse de ses fans.
Depuis 10 jours, nous sommes restés relativement silencieux, de peur qu'une déclaration de notre part n'enflamme encore plus la situation et n'alimente les attaques brutales contre les amateurs de concerts, les défenseurs des droits de l'homme et la communauté LGBTI. Nous sommes attristés d'être témoins de cette nouvelle vague de tyrannie arriérée qui s'abat sur un pays et une audience chère à notre cœur. C'est écœurant de penser à toutes ces hystéries générées contre des jeunes qui brandissent un bout de tissu pour revendiquer l'amour. Le temps n'est plus au silence ni au débat politique condescendant sur l'identité. Se taire, c'est consentir.
Comment Mashrou Leila en est venu à publier une telle déclaration à la suite d'un concert ? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Depuis plus de 10 ans, le groupe conquiert le Moyen-Orient et pas seulement, grâce à des chansons aux paroles sincères et poétiques sur la sexualité, le genre et le quotidien de la jeunesse arabe. Son chanteur leader, Ahmed Senno, homosexuel, n'hésite pas à défendre haut et fort les droits LGBT. Le 22 septembre 2017, il donnait un concert peu commun en Égypte, 35 000 personnes, un rassemblement bon enfant, émouvant pour une partie de la jeunesse égyptienne, en quête de moments de répit dans une période de crise économique et de retour en arrière concernant les libertés publiques. Les fans arboraient t-shirts et tatouages au henné à l'effigie du groupe. Le groupe libanais écrira même sur Twitter quelques heures après le show « Merci Le Caire, c'était l'un des meilleurs concerts de notre carrière ». En écoutant cet enregistrement de la soirée, on comprend pourquoi. Nour, étudiante en art graphique, posée avec ses amis devant le restaurant universitaire de sa faculté, cheveux frisés en boule au-dessus du crâne, était présente dans la foule ce soir-là.
It was actually really good. Unlike so many people in Egypt here claiming that it was.
C'était vachement bien et contrairement à ce que beaucoup de gens racontent ici en Égypte, ce n'était pas un rassemblement sexuel ou je ne sais quoi. C'était l'un des concerts les plus chouettes auxquels j'ai été dans ce contexte. Généralement, dans les concerts pour les grosses célébrités en Égypte, il y a énormément de harcèlement sexuel. Il y a beaucoup de violence en tout genre qui éclate. Mais ce concert-là, celui de Mashrou Leila, avait une atmosphère vraiment confortable. On a ressenti qu'il y avait une certaine forme de liberté d'expression. C'est pour cette raison que des gens ont sorti un drapeau arc-en-ciel et que chacun s'est senti libre de faire ce qu'il voulait.
Un simple drapeau, mais qui veut dire beaucoup dans ce pays où les homosexuels sont pourchassés, humiliés et souvent forcés de vivre dans le silence. Lorsqu'on le brandit le soir du concert, des acclamations se font entendre dans la foule. À cet instant, personne ne peut imaginer les conséquences de ce geste. Au moins 66 arrestations, 27 condamnations entre 1 et 6 ans de prison. Les autres sont toujours détenus en attente de leur procès. Que s'est-il passé? Les photos de ce drapeau LGBT flottant dans la foule ont été abondamment commentées sur les réseaux sociaux, souvent accompagnées d'une logorée de haine contre les homosexuels, mais aussi de nombreux soutiens pour la cause. Les médias égyptiens s'emparent du phénomène. Sur la chaîne Extra 2, par exemple, un présentateur et un cher musulman discutent le sujet pendant près d'une heure.
Les droits des homosexuels, vous savez que ça fait partie des choses que les sociétés occidentales ont tenté d'imposer à l'Égypte lors de conférences internationales.
L'homosexualité, c'est une invasion intellectuelle qui vise à changer la culture et l'idéologie des sociétés. C'est une haine contre une société pacifique et simple. C'est une forme de colonisation à distance qui détruit les valeurs et les principes de nos sociétés.
Après que les autorités se sont emparées du scandale et ordonné des arrestations pour satisfaire la frange la plus conservatrice de l'opinion publique, l'Église copte prend le relais. Elle annonce vouloir organiser une grande conférence contre, je cite, le volcan de l'homosexualité et le danger imminent qu'il représente pour la jeunesse égyptienne. L'un des proches conseillers du grand imam d'Al-Azhar a lui qualifié l'homosexualité de terrorisme moral. Et pendant ce temps, les ONG, elles, comptent avec inquiétude les arrestations dans les différents gouvernorats d'Égypte. C'est le cas de Dalia Abdelhamid, qui travaille pour l'EIPR.
La plupart des accusations sont intitulées « débauche » ou « publication de contenu qui incite à la débauche ». Nous avons commencé à répertorier les cas de répression depuis octobre 2013. Ça ne s'est jamais arrêté et c'est juste une intensification de la vague d'arrestations au niveau de cette répression.
Radio France Internationale s'est vue refuser à deux reprises l'accès aux audiences des procès en cours. Sans pouvoir enregistrer, nous avons pu constater au centre de médecine juridique du Caire la présence de 8 accusés menottés face contre le mur. Les accusés sont généralement envoyés dans ce bâtiment en vue de subir un examen anal censé prouver leur homosexualité. Dalia Abdelhamid donne des détails sur cette pratique dénoncée par l'ONU.
This unscientific violation, the so-called anal exams.
Nous avons rassemblé des preuves de cet examen de l'anus qui est d'une grande violence et n'a aucune valeur scientifique. Et nous suivons des affaires de justice dans lesquelles il y a des preuves que les gens sont vraiment soumis à ce genre d'examen. On ne demande pas aux gens s'ils sont d'accord ou s'ils veulent être examinés par un médecin. Et il y a, selon les examinateurs, 6 façons de prouver s'il y a eu sodomie ou pas. Selon les règles de l'ONU, tout cela est classé comme une forme de cruauté, de traitement humiliant et de torture. Quand la police accompagne ces gens dans le bâtiment réservé à la médecine, les suspects ont des menottes. Et dans certains cas, ils sont obligés de regarder leurs pieds et ils vont être humiliés dans la nuit, se faire agresser par des gens qui les insultent et les traitent de pervers. On dit qu'ils ont été arrêtés alors qu'ils couchaient ensemble. Il y a de vraies preuves que cette procédure est faite pour humilier les gens.
Et pour comprendre ce qu'explique Dalia Abdelhamid, nous avons recueilli le témoignage de Matteo, son nom a été modifié, un Italien qui a habité au Caire entre 2009 et 2015. En raison de son homosexualité, il est détenu un mois, en juillet 2015, avant que son ambassade ne parvienne à le faire sortir. Il vit actuellement en Asie, mais il a accepté de raconter pour RFI ses conditions de détention. Il a passé 27 jours avec 50 détenus dans une cellule de 10 mètres carrés d'un commissariat de police, témoin de multiples actes de torture et de barbarie contre les prisonniers. L'ensemble de son témoignage est accablant. Nous nous concentrerons ici sur le sort réservé aux homosexuels. Lui se dit chanceux car son ambassade a exigé que son orientation sexuelle ne soit pas révélée au sein de la prison. Mais pour les autres, c'est une autre affaire.
Hi François. There was actually a guy, not in my room, in my jail, but on another jail next to me.
Il y avait un homme, il n'était pas dans ma cellule, mais dans la cellule d'à côté. Mes codétenus m'ont dit qu'il était gay. Les gens dans la prison savaient qu'il était gay, donc il n'avait aucune chance. Il était isolé de tout, il ne pouvait rien faire. Et les gens dans la prison se moquaient de lui tout le temps et finissaient par le frapper et j'imagine aussi par le violer. Pendant des jours, il l'empêchait de boire ou de manger. Et quand il pouvait manger, eh bien, on lui donnait les restes. Donc il était vraiment traité de la pire des façons. Et les policiers, eh bien, ils incitaient les gens de la prison à jouer avec ce jeune homme gay. Ils essayaient de pousser les gens à l'insulter, à le violer et à le traiter vraiment de la pire des manières. Les gens qui sont en prison en Égypte parce qu'ils sont gays, dès que les autres prisonniers le savent, eh bien, ils risquent d'être torturés et même tués.
I mean, they will torture, eventually even kill the gay guy in the jail.
Au sixième et dernier étage d'un immeuble d'un quartier populaire du Caire, nous rencontrons désormais Karim, jeune bisexuel égyptien. Il remercie le ciel de ne pas s'être rendu au concert de Mashrou Leila. J'aurais pu être un de ces gamins qui a brandi le drapeau, dit-il. Comme la plupart des LGBT que nous avons rencontrés, il raconte la difficulté de vivre une double vie, de se cacher de sa famille, de ses voisins et même de certains amis, et surtout de la peur d'être connu des autorités.
J'ai vu beaucoup de gens se faire arrêter, ils ne sont même pas allés au concert, mais simplement parce qu'ils sont gays, ils ont été arrêtés et ça a commencé à me faire peur. Je me suis dit, merde, ça va beaucoup trop loin, nous devons juste quitter ce pays.
Mais qu'est-ce qui est arrivé à tes amis qui se sont fait arrêter ?
Ce qui se passe généralement, parce que ça arrive depuis longtemps, c'est qu'ils arrêtent quelqu'un, et si le gars a l'air un peu efféminé, ils vont fouiller son téléphone et puis monter des fausses accusations contre lui, comme pas d'adultère mais de la débauche. Et voilà, ils appellent les familles, et puis ils doivent verser de l'argent ou appeler un avocat. Finalement, les gens vont sortir s'ils ont des connexions.
Karim, est-ce qu'aujourd'hui tu as peur de vivre ta sexualité librement ?
It's not that I'm afraid of what my family would do as much as like.
C'est pas que j'ai peur de ce que va faire ma famille si elle apprend qui je suis, mais j'ai peur de ce qui peut leur arriver. Je me dis souvent que si mon père l'apprend, il va probablement mourir. Il a le cancer, je crois que le choc serait beaucoup trop grand pour lui. Et puis il y a les problèmes avec les applications de rencontre. Je me dis, est-ce que je dois rencontrer cet homme ou pas? Est-ce que c'est dangereux? Constamment, j'entends des histoires et j'ai toujours peur.
Karim et de nombreuses ONG égyptiennes ont désormais des preuves pour affirmer que les services de sécurité utilisent les applications de rencontres pour organiser des arrestations. Nous avons cherché à comprendre comment Grindr, la principale application de rencontres gays, réagit à ce problème. Jack Harrison Quintana est le directeur de Grindr Equality, un programme au sein de l'entreprise qui entend défendre la santé et les droits des LGBT. Il nous répond depuis les États-Unis via Skype.
Lorsqu'on fait face à une crise comme celle-ci, on s'efforce d'aller plus loin. Aujourd'hui, on envoie quotidiennement à tous nos utilisateurs égyptiens des messages de précaution en arabe, expliquant que la situation est particulièrement dangereuse, qu'il faut redoubler d'attention. On leur donne des conseils. Nous avons travaillé avec les militants sur place. On a aussi modifié l'architecture de l'application pour faire en sorte qu'elle soit un peu plus sécurisée, pas seulement au Moyen-Orient. Par exemple, ça va permettre aux gens de changer l'apparence de l'icône sur leur téléphone. L'une des raisons de notre succès, c'est que notre nom est maintenant associé au LGBT pour beaucoup de gens. Mais on ne veut pas que la présence de cette icône sur le téléphone d'un utilisateur puisse le mettre en danger.
On l'a compris, en Égypte, la férocité de la répression contre les homosexuels n'a jamais atteint un tel niveau. Alors pourquoi une telle escalade? Les experts que nous avons consultés donnent plusieurs explications. Pour Scott Long, ancien directeur du programme de Human Rights Watch pour l'égalité et les questions de genre, résident au Caire pendant 3 ans, indique qu'il s'agit avant tout d'une revanche de la police après la révolution de 2011.
Paradoxically, I think we saw very little in the way of open persecution of LGBT people.
Paradoxalement, nous avons constaté très peu de poursuites judiciaires contre les LGBT pendant les années où les frères musulmans étaient au pouvoir. Et l'une des raisons à cela, c'est qu'ils ne sentaient pas le besoin de prouver quoi que ce soit sur cette question. C'est un parti religieux, tout le monde le savait. Mais depuis que Sisi a pris le pouvoir, il y a eu une explosion du nombre d'arrestations de LGBT, la plupart du temps lors d'opérations menées à domicile ou en visant les transsexuels ou les personnes efféminées. Et je pense que c'est une façon pour la police de rétablir sa crédibilité dans le pays. Parce que personne n'aime la police. Après la Révolution, c'était l'institution la plus détestée de l'Ancien Régime. Et là, c'est une façon pour la police de dire « Nous faisons notre travail, nous défendons la morale de ce pays. » Et cela envoie un message au public pour dire aux gens « Regardez, vous avez besoin de la police. »
And sending a message to the public that they're needed.
« L'essayiste égyptienne Mona El Tahawi pense, elle, qu'une panique morale agite en ce moment les autorités, les responsables religieux et les conservateurs qui constatent les soutiens de plus en plus forts et visibles d'une partie de la population égyptienne en faveur des droits aux homosexuels. Des groupes de soutien sur les réseaux sociaux, des intellectuels qui s'engagent, des voix qui s'élèvent et qui effraient le pouvoir. Pour elle, le manque de contrôle sur les corps et la sexualité signe l'arrêt de mort des régimes autoritaires. En juin dernier, le coming out sur Facebook d'une jeune femme égyptienne, Dalia El-Farhal, est devenu viral. Entre dénonciation et soutien, le débat s'est ouvert sur la toile. Nous la contactons sur Skype. Elle vit désormais aux États-Unis.
Partout dans le monde, le mouvement LGBT a connu le même cheminement. Personne n'était prêt pour accepter cela. Tant qu'ils n'y ont pas été confrontés, personne ne parle d'homosexualité de façon normale. On parle toujours avec des relents d'humiliation. On montre que les LGBT sont des malades mentaux. On condamne toujours les homos implicitement, dans les films, dans les livres. Donc les gens ne seront jamais prêts tant que des membres de la communauté LGBT ne prendront pas la parole librement et ne s'exprimeront pas eux-mêmes sans avoir peur. Je crois qu'entendre ces voix, c'est très important, mais ça va prendre beaucoup de temps.
Priver quiconque de prendre la parole sur ce sujet, c'est justement ce que tente d'assurer le régime égyptien. Le Conseil suprême des médias a interdit aux télévisions et radios égyptiennes de laisser la parole à ceux qui pourraient donner une vision positive de l'homosexualité. Les homosexuels peuvent apparaître à la télévision à la seule condition de s'excuser ou de se repentir. Analyste et chercheur au Tahrir Middle East Institute, Timothy Caldas réagit à cette décision.
C'est scandaleux, mais c'est la façon dont le gouvernement rejette systématiquement le débat. Au lieu de créer des espaces de discussion à propos de cette question et de ce qui se passe, de permettre d'entendre les positions des uns et des autres et permettre aux gens de se faire un avis, eh bien, il conforte cette sorte d'état paternaliste où il faut dire aux gens ce qu'ils ont le droit d'entendre ou pas, comme si les Égyptiens étaient incapables d'entendre différentes opinions et de se faire un avis.
Seulement aujourd'hui, la plupart des Égyptiens s'informent et débattent sur les réseaux sociaux. À l'université américaine du Caire, Nour et Nariman expliquent que chez les jeunes, les mentalités commencent à changer. Comme sur beaucoup d'autres questions, le fossé avec la génération des parents est immense.
Ma mère m'a dit une fois qu'il fallait mettre tous les gays dans un trou et les brûler. C'est vraiment extrême. Je ne peux même pas argumenter devant de tels propos. Je ne commente même pas. Je dis seulement, laisse-les vivre.
Ça reste compliqué, mais je pense que dans notre génération, les jeunes à l'université en ce moment, on s'ouvre un petit peu plus. Mais c'est quand même la majorité s'oppose énormément à ça. Pour certaines personnes, c'est vraiment une affaire de religion. Après, ce que je leur dirais, c'est que c'est une affaire de religion, que les gens boivent ou pas. Et vous n'avez pas de problème à ce que les gens boivent. Enfin, la plupart des gens ici à l'université, ça ne les dérange pas. Vous n'avez pas de problème à ce que les gens soient violents, ou à ce qu'ils mentent, ou à ce qu'ils fassent des choses qui ne sont pas forcément très morales. Alors je ne vois pas pourquoi ça, c'est un plus gros péché moralement que quoi que ce soit d'autre.
Je suis vraiment en colère de ce qui s'est passé. Je veux dire, on s'attarde sur le mode de vie privé de certaines personnes ou leur orientation sexuelle plutôt que de se concentrer sur les réelles violences qui sont commises ici en Égypte. C'est vraiment un problème. Et quand j'étais au concert, j'ai senti une forme de fierté de beaucoup de monde. Et c'était bien. Donc c'est vraiment frustrant de voir tous ces gens être arrêtés. Ils ont seulement levé quelques couleurs. Ce n'est rien, c'est pas grave.
That's very problematic, yeah.
Dimanche dernier, le tribunal d'Azbakiya a renouvelé de 15 jours et pour la troisième fois la détention provisoire d'Ahmed Alla, comme ce fut le cas pour Sarah et Ghazi, les deux jeunes porteurs du drapeau arc-en-ciel. Le groupe Mashrou Leila, lui, n'a plus le droit de se produire en Égypte. Enfin, le député Riyad Abdel Sattar a récemment déposé un projet de loi pour punir officiellement l'homosexualité d'une peine de prison de 1 à 3 ans ferme. Tout ça pour quelques couleurs, la communauté LGBT proie facile du régime égyptien. Un grand reportage de François Imferkataji, réalisation Sandrine Sparra.